France Info.
Et à la une ce matin, Capgemini dans la tourmente. L'entreprise française, géant de l'informatique, permet à la police de l'immigration américaine d'identifier et localiser des personnes étrangères. Police décriée pour ses méthodes, le ministre de l'économie demande à Capgemini de se questionner sur ses activités. France Info reportage dans le bazar de Téhéran, là où la contestation a débuté fin décembre. D'abord pour des raisons économiques, l'activité en Iran reprend après des semaines de répression. Après la mort de Jean-Paul Manov en direct sur Kick, le parquet demande un mandat d'arrêt contre les gérants de la plateforme. Et puis du foot, soirée de Ligue des Champions à suivre sur France Info ce soir. Le PSG et Marseille espèrent une qualification en 8e de finale. Oui, il y a eu de possibles manquements au protocole. Voici le fléchissement de Stephen Miller, ce très proche conseiller de Donald Trump, qui s'exprime sur la mort d'Alex Pretty à Minneapolis le week-end dernier. Il a été tué par des agents fédéraux alors qu'il manifestait contre la police de l'immigration. Donald Trump promet une petite désescalade dans la ville. Une partie des 3000 agents fédéraux déployés depuis plusieurs semaines va partir. Cette affaire secoue l'Amérique et a aussi des répercussions aussi en France. On apprend qu'une filiale américaine de Capgemini, géant français de l'informatique, aide ICE, la police de l'immigration, à identifier et localiser des personnes étrangères. Au sein de l'entreprise, beaucoup de salariés font part de leur indignation, Simon Le Baron.
Avec à chaque fois, selon Frédéric Bolloré de la CFDT, la même tonalité.
Du dégoût, de la honte et de la colère mélangée. Quoi.
Qu'est-ce qui compte le plus, poursuit son collègue de la CGT Benjamin Girard, un marché juteux ou le respect des droits humains prônés par l'entreprise?
L'an dernier, on a reversé 1 milliard d'euros de dividendes et de rachats d'actions aux actionnaires. Donc si on veut trouver de l'argent, il y en a. Maintenant, c'est des choix éthiques. Est-ce qu'on veut juste faire des valeurs d'affichage ou est-ce qu'on veut être raccord avec ces valeurs?
Valeurs bien éloignées, selon lui, de ce que fait Capgemini pour ICE, en particulier depuis le retour de Donald Trump. Et notamment, explique Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales, le skip tracing.
C'est-à-dire en français, la recherche de personnes, à partir notamment d'informations disponibles en ligne, pour localiser des migrants présumés illégaux en vue de leur déportation. C'est des activités qui, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ont explosé. Donc en décembre, Capgemini a signé un nouveau contrat qui pourrait s'élever jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars en fin de contrat.
D'autant qu'un bonus financier est prévu en fonction des résultats. La direction en France renvoie la responsabilité à sa filiale américaine et assure examiner ses contrats. Capgemini se vantait pourtant sur son site d'aider à réduire les délais et les coûts dans l'expulsion des étrangers illégaux des États-Unis. Mention supprimée il y a quelques jours.
Et le ministre français de l'économie, Roland Lescure, appelle le fleuron du CAC 40 à questionner ses activités. On apprend ce matin qu'une personne a été blessée en Arizona après des tirs impliquant de nouveau la police aux frontières. Les tensions restent très vives dans le pays. Une star française qui vit aux États-Unis réagit. « Je regarde l'actualité et je suis horrifié », dit le basketteur Victor Wembanyama. « Je trouve ça fou que le meurtre de civils puisse être acceptable », ajoute le joueur de NBA. De nouvelles frappes russes en Ukraine. La nuit dernière, 2 morts près de Kiev. Hier, d'autres attaques ont fait 12 victimes dans la région de Kharkiv. Les États-Unis vont-ils choisir de frapper l'Iran de nouveau? Washington annonce un exercice militaire aérien de plusieurs jours au Moyen-Orient. Un porte-avions est arrivé déjà hier dans la région. L'Arabie Saoudite réagit et dit exclure l'usage de son territoire pour une attaque contre l'Iran. Les Américains ont menacé de frapper le pays si le régime continuait sa répression des manifestations. Alors comment ces menaces sont-elles prises par les Iraniens? Dans le grand bazar de Téhéran, où est née la contestation? L'activité reprend, mais dans une ambiance morose, Siavosh Ghazi.
Dans le grand bazar de Téhéran, pratiquement tous les magasins, ou presque, ont ouvert, mais ce centre économique et commercial du pays n'a pas encore repris ses activités normales, comme l'affirme Hossein, un marchand de petits bijoux en plastique.
Les clients ne viennent pas, parce qu'ils ont peur qu'une guerre survienne à tout moment. J'espère que ça ne sera pas le cas. Cela affecte directement notre commerce. Nous sommes grossistes et les petits commerçants ne risquent pas d'acheter dans cette situation parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. L'année dernière, à cette période, nous avions beaucoup de clients et beaucoup de ventes. Mais pour l'instant, le marché stagne.
En effet, on est à moins de 2 mois du nouvel an iranien, célébré le 20 mars. Et les commerçants font une grande partie de leurs gains à cette période de l'année. Une situation confirmée par Ahmad, un marchand de tissus.
Avec ces infos sur le déclenchement d'une guerre à tout moment, c'est l'instabilité. Par rapport à l'an dernier, on est à 100% de pertes. Il y a eu le prix de l'or et la chute de la monnaie face au dollar. Maintenant, avec la menace de guerre, c'est le coup de grâce pour notre économie. Tout le monde est perdu et attend de voir ce qui va se passer. Personne ne dépense. Les gens préfèrent préserver leur économie au cas où.
Le mouvement de contestation avait commencé le 28 décembre dernier avec la grève du bazar à cause de la chute de la monnaie iranienne face au dollar, une chute qui a repris sa course depuis 3 jours avec près de 10% de pertes.
Le reportage de Chiavoj Ghazi, correspondant à Téhéran pour France Info. Un déjeuner de travail à l'Elysée tout à l'heure. La première ministre danoise et le premier ministre du Groenland sont reçus par Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut réaffirmer la solidarité de l'Europe et de la France. Il sera question de la souveraineté du Groenland à l'heure où le président américain veut toujours s'emparer du territoire danois. Les 2 motions de censure déposées contre le gouvernement ont été rejetées. Hier, l'Assemblée nationale adopte le budget 2026 de l'État, qui va donc être transmis au Sénat. Un vaste incendie dans la station de ski UP de Courchevel, en Savoie. Hier soir, c'est dans un hôtel 5 étoiles que le sinistre s'est déroulé. La centaine de personnes présentes a pu être évacuée. À Oullins, au sud de Lyon, une adolescente de 15 ans a été retrouvée lundi errant dans les rues. On l'a appris aujourd'hui, elle a réussi à s'échapper d'un appartement où elle était séquestrée par 4 mineurs. Un jeune homme de 17 ans, l'ancien petit ami de la victime, et 3 filles. Ils ont tous été interpellés. L'adolescente est hospitalisée, soignée notamment pour des entailles faites au couteau. Les enquêteurs cherchent à éclaircir le mobile des agresseurs. Sa mort avait suscité émotion et colère l'été dernier, celle de Jean Pormanov, pseudo de ce vidéaste de 46 ans, décédé après plus de 12 jours de direct sur le réseau social Kick. On le voyait subir humiliation et violence de la part de 2 streamers, Safine et Naruto. L'autopsie a conclu que la mort n'était pas liée à ces violences, mais hier, ils ont été placés en garde à vue à Nice. Et on apprend dans le même temps qu'un juge d'instruction va être nommé à Paris, cette fois au sujet de la plateforme australienne Kick, qui est toujours autorisée en France. Pierre de Cossette, le parquet demande à ce qu'un mandat d'arrêt soit délivré contre ses gérants.
Oui, parce que Kick n'a pas joué le jeu. L'été dernier, la procureure de Paris a ouvert une enquête sur les activités de la plateforme australienne, son manque de régulation des contenus et de modération, qui ont notamment permis à plus de 200 000 personnes d'assister jour après jour, devant leurs écrans, à des traitements dégradants contre Jean Pormanov. Dans un communiqué hier, Laure Becquio affirme que les avocats des gérants de Kick ont pu consulter l'avancée des investigations et qu'une convocation avait été adressée à ces responsables de la plateforme australienne qui ne se sont jamais présentés, d'où la désignation d'un juge d'instruction, à qui la procureure de Paris demande donc d'émettre un mandat d'arrêt contre les dirigeants de Kick, 3 hommes qui, selon nos informations, se trouvaient aux dernières nouvelles en Australie. Pour la justice française, il s'agit aussi d'analyser les montages financiers de la société, considérés par le parquet comme opaques. La procureure évoque des flux d'argent suspects qui laissent penser que Kick a directement rémunéré Jean Pormanov en finançant sa chaîne.
Les précisions de Pierre de Cossette. France-Allemagne, coup d'envoi 21h, match de l'Euro de Hand. Les joueurs tricolores ont besoin d'une victoire pour accéder au dernier carré de la compétition. Et puis un peu plus tard, les amateurs de foot vont être servis. 8e et dernière journée de la phase de Ligue, de la Ligue des Champions. Tous les matchs vont se dérouler en même temps. Ce sera à suivre bien sûr sur France Info à partir de 21h. Le PSG vise le top 8 qui permet de rejoindre directement un 8e de finale. Marseille et Monaco ont pour objectif le top 24 qui permet de jouer les barrages. L'OM est actuellement 19e. Le scénario catastrophe d'une élimination est tout de même encore possible et Nicolas Perronnet, elle tient Marseille en haleine.
Christian résume assez bien l'état d'esprit de tous les supporters marseillais.
Ben si, il y a du stress, ben si.
Alors avec son ami Franck, ils ont déjà imaginé pas mal de scénarios.
Un petit carton qui tombe à la dernière minute, un pénalty qui n'est pas bon, il va se passer un truc, mais ça va passer.
Une victoire et la question ne se posera même pas. Un match nul et surtout une défaite et là, oui, il faudra faire les calculs. Mais l'entraîneur Roberto De Zerbi assure que lui, sur son banc, n'en fera pas.
On vient ici pour gagner, pas pour jouer le match nul. On ne joue pas comme ça à Marseille. Croyez-moi, sur la pelouse, on fera tout pour l'emporter. On n'est pas une équipe qui fait des calculs.
Ne pas viser le match nul pour ne pas jouer avec le feu et les nerfs des supporters comme Johan.
On serre un peu les fesses, mais c'est pour ça qu'on aime ce club. Hein. On aime l'OM, c'est pour ça. Franchement, je pense qu'on est capable de le faire et on va y aller. Ça va le faire, ouais, ça va le faire, on a confiance. On craint des gains.
Au bout du suspense, il y aura peut-être ce soir un bout d'histoire de l'OM. Le club n'a plus atteint la phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 14 ans.
Et le coup d'envoi est à 21h, donc comme tous les matchs, les 18 matchs de cette dernière journée de Ligue des Champions. 5h10 sur France Info, Christine Peña est de retour en studio avec nous pour la météo. Vous nous dites qu'il y a une petite accalmie aujourd'hui.
Oui, la perturbation d'hier va se dissiper progressivement. Alors elle donnera aujourd'hui encore des pluies, mais sur l'est du pays, de la neige en montagne, surtout sur les Alpes. L'accalmie se traduira aujourd'hui par un temps beaucoup plus calme, sec, surtout sur toutes les régions de l'ouest jusqu'au nord, jusqu'à Paris. Mais les pluies reprendront le dessus dès jeudi. Elles devraient arriver encore par la façade atlantique. Au niveau des températures, le froid reste en place. Il fait du surplace sur l'est. Il devrait faire autour de 5 degrés au mieux sur le nord-est, du côté de Strasbourg par exemple, contre 10 à 13 degrés à l'ouest et dans le sud, 10 à Nantes, à La Rochelle, 12 à Biarritz, 13 à Montpellier et Ajaccio.
Merci Christine Peña.